VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, avec vous ce matin, Bagassi Koura et Anne Albertson. Bienvenue à cette édition du lundi 23 mars 2015. Au sommaire ce matin.
En Centrafrique, au moins une vingtaine de personnes auraient été tuées ce week-end dans le centre-nord du pays.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a été officiellement désigné hier candidat de son parti à la présidentielle d'octobre.
Cela fait un an, jour pour jour, que la Guinée déclarait le premier cas confirmé du virus Ebola. Depuis, près de 3000 personnes ont été contaminées et plus de 2200 sont décédées.
En RDC, 100 jours du gouvernement Matata 2.
Vous avez suivi dernièrement dans une seule nuit une dizaine de personnes tuées. Jusque-là, il n'y a pas d'enquête. La connexion Internet coupée, les SMS coupés. Et nous pensons que ce qui reste maintenant, c'est coiffer la tête.
Voilà, ce matin, les réactions depuis le sud Kivu.
Le premier chef du gouvernement de Singapour, Lee Kuan Yew, est décédé ce lundi matin à l'âge de 91 ans.
À suivre la minute écho et les sports, mais d'abord le journal.
En Centrafrique, au moins une vingtaine de personnes auraient été tuées samedi et dimanche dans le centre-nord du pays. C'était au cours d'une attaque attribuée aux éleveurs peuls armés. Le point avec Chérubin Dorsil.
Au total, 9 villages sur l'axe Kagabandorom-Bré ont été la cible de cette attaque. Selon les sources locales, plusieurs dizaines de combattants ex-Séléka associés aux peuls armés s'en sont pris à des villageois en représailles au vol des troupeaux de bœufs des éleveurs peuls par des anti-balaka présumés. Mauloud Moussa, porte-parole Séléka de Kagabandoro, a nié l'implication de son groupe dans ces attaques. Il a pointé du doigt des éleveurs Mbororo armés. Ce regain de violence a provoqué la fuite de plusieurs centaines de personnes à Kagabandoro Centre, précisément au site des déplacés de l'évêché. La présidente de la transition s'est rendue samedi à Ndélé, dans le nord du pays, à la tête d'une forte délégation, une manière de rassurer les populations de cette ville, un des bastions de l'ex-rébellion Séléka, qu'elles ne sont pas oubliées. Catherine Samba-Panza a aussi appelé les différentes communautés à œuvrer pour la paix et le vivre ensemble dans la région.
En RDC, vive aux préoccupations des proches de l'opposant Jean-Claude Muyambo concernant son état de santé. Poursuivi pour abus de confiance, le chef du parti d'opposition SCOD, Solidarité Congolaise pour le Développement, est incarcéré depuis le 20 janvier à la prison centrale de Kinshasa. Son avocat, maître Patrick Mutombo, affirme qu'il s'était fracturé la jambe gauche au moment de son interpellation. Muyambo souhaite se faire soigner dans un centre médical de Kinshasa, mais selon toujours ses proches, les autorités veulent lui imposer un centre où il doit être soigné. Écoutons son avocat, maître Patrick Mutombo, joint à Kinshasa.
D'abord, le directeur de prison et le médecin de là, ils sont d'accord pour que Muyambo aille se faire soigner un centre de santé de son choix, mais il fallait l'autorisation. Nous avons été en contact avec le gouvernement qui nous renvoya chez la procureure générale, Madame Cécile. Je suis rentré personnellement en contact avec elle. Elle va me dire que ce n'est pas son affaire et que pour le détenu malade, ça rentrait dans les compétences du directeur de prison. Alors nous avons compris que c'était un jeu de va-et-vient. On ne sait pas exactement à quelle autorité devrions-nous s'en tenir, mais nous savons que c'est un détenu du parquet général et seul le parquet général a la compétence d'ordonner quoi que ce soit en termes de main levée, en termes de liberté provisoire ou encore en termes d'autorisation pour aller se faire soigner, d'autant plus qu'il sera toujours sous cette ordonnance-là de confirmation de détention.
Sans surprise, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été officiellement désigné hier candidat de son parti à la présidentielle d'octobre. Selon l'AFP, plus de 10 000 sympathisants s'étaient réunis hier pour encourager leur champion. Âgé de 73 ans, M. Ouattara n'avait pas de concurrent pour cette investiture et face à une opposition divisée, il part grand favori pour le scrutin d'octobre.
Quelques 250 enfants soldats démobilisés hier par l'un des groupes armés du Soudan du Sud. La faction Cobra a remis en liberté ses enfants, y compris 4 filles, dans un village isolé de l'état de Yonglé. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Il s'agissait de la 3e démobilisation d'enfants soldats par ce groupe qui en compte quelques 3000 dans ses rangs. En janvier et février, 660 d'entre eux avaient été libérés à Pibor et Gumrok, deux villages de l'état de Yonglé. L'UNICEF s'attend à ce que 400 autres bénéficient de cette mesure dans les prochains jours. Selon l'agence onusienne, certains des enfants ont pris les armes il y a 4 ans et n'ont probablement jamais mis les pieds à l'école. En dépit d'une situation difficile sur le terrain, ils ont le moral, a souligné le représentant de l'UNICEF au Soudan du Sud.
UNICEF stands ready to provide the necessary support for children to be reintegrated when they are released.
L'UNICEF est prête à fournir le soutien nécessaire à la réintégration de ces enfants une fois qu'ils sont libérés. Nous recherchons leurs familles afin qu'ils puissent retourner dans leur communauté. Nous pensons que beaucoup y parviendront, a expliqué Jonathan Veitch, soulignant que le plus important est de les scolariser et de leur donner accès au programme de formation professionnelle.
En Tunisie, les autorités recherchent un troisième assaillant dans le massacre des touristes du musée du Bardo. C'est ce qu'a annoncé dimanche le président tunisien Béji Caïd Essebsi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier chef du gouvernement de Singapour, Lee Hwan Yew, principal artisan de la transformation de la cité-État en l'une des économies les plus florissantes d'Asie en l'espace de 3 décennies, est décédé ce lundi matin à l'âge de 91 ans. Il avait été hospitalisé début février pour une pneumonie sévère. Il a gouverné l'île de 59 à 90.
En Syrie, les insurgés ont capturé 4 aviateurs syriens dimanche après le crash de leur hélicoptère dans une zone tenue par les rebelles dans le nord-ouest du pays. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé en Grande-Bretagne, a déclaré que l'avion a subi une défaillance technique et a tenté d'effectuer un atterrissage d'urgence près de Jabal al-Zawiya. L'agence d'information d'État syrienne a confirmé que l'un de ces hélicoptères s'est en effet écrasé dans la province d'Idlib.
Au Yémen, les rebelles houthis chiites ont saisi la ville de Taïs dans le centre du pays. Les milices houthis qui se battent contre le président yéménite Abd Rabbou Mansour Hadi, un allié des États-Unis, ont pris samedi soir le contrôle de l'aéroport militaire de la ville sans combat. Ce dimanche, ils ont été aperçus faisant des patrouilles dans certaines parties de Taïs. Quelques heures après la prise de la ville, le chef rebelle Abdelmalik al-Houthi a décidé d'envoyer ses combattants vers le sud où son rival, le président Hadi, a trouvé refuge.
L'Iran sait qu'il s'exposera à de sérieux coûts, conséquences et implications s'il tente de mettre au point des armes nucléaires, a fait savoir le directeur de la CIA. S'exprimant ce dimanche sur la chaîne Fox News, John Brennan a dit que les États-Unis disposent de plusieurs options pour empêcher l'Iran d'acquérir la bombe nucléaire en cas d'échec des négociations.
Voilà, les pays occidentaux doivent envisager l'envoi d'armes défensives à l'Ukraine pour l'aider à faire face au soutien continu de Moscou aux séparatistes pro-russes, a fait savoir le commandant en chef des forces de l'OTAN, le général Philippe Brilov, lors d'une conférence à Bruxelles. Toutefois, le général Brilov a reconnu qu'un tel envoi d'armes pourrait déstabiliser l'Ukraine alors que les préoccupations subsistent concernant la mise en œuvre de la trêve entre les troupes ukrainiennes et les séparatistes.
Enfin, l'armée nord-coréenne menace d'abattre des ballons que des activistes sud-coréens comptent envoyer dans la zone démilitarisée avec à bord 10 000 CD du film L'Interview qui tue, une comédie américaine au sujet d'un agent fictif de la CIA chargé d'assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un, un film dont on sait qu'il avait suscité la controverse l'automne dernier.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Et ce matin, c'est avec Jacques Aristide.
Le Gabon veut lever 30 milliards de francs CFA d'emprunt dans le marché de la CEMAC. Ces opérations de levée de fonds vont se dérouler dans la période avril-décembre 2015 à travers 3 ou 4 émissions auprès de 13 établissements bancaires agréés. Mitigé, le dernier rapport sur la sécurité alimentaire dans le monde, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires note des avancées. La pauvreté a été réduite l'année dernière et le nombre de personnes souffrant de la faim a également diminué, mais les conflits, les changements climatiques et les maladies ont perturbé la production et le commerce des aliments. Écoutons les précisions de Shengen Fan, il est le directeur de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires.
We have achieved some progress, for example.
Nous avons relevé quelques progrès. Par exemple, nous prêtons plus d'attention à la nutrition. Nous estimons également que l'eau, l'hygiène sont très importants pour la lutte contre la sous-alimentation des enfants. Nous avons aussi constaté un élan de mobilisation par rapport au commerce, au changement climatique et une mise en relief des fermes familiales. Alors, nous pouvons dire que nous avons fait assez de progrès sur ces différents fronts.
La douane burkinabé innove avec un nouveau logiciel pour automatiser les opérations douanières et augmenter les recettes à la suite de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo qui ont déjà adopté Sidonia World. Le Burkina Faso se met à cette trouvaille. Cette nouvelle plateforme qui va permettre de faciliter les opérations douanières a été développée par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement avec l'appui financier de la Banque mondiale. La douane burkinabé collecte annuellement environ 550 milliards de francs CFA.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, le journal des sports avec Élisée Mpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Bagassi.
Voilà, on commence par la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. Le Nigeria, sacré champion.
Les Flying Eagles se sont imposés face au Sénégal, pays organisateur, 1-0. Le but marqué à la 19e minute par Bilboa aura suffi au Nigeria pour s'adjuger son 7e titre africain de cette catégorie. Le Ghana, lui, termine 3e après avoir remporté la petite finale aux dépens du Mali, 3-1.
Le comité exécutif de la FIFA a décidé de désigner les Émirats Arabes Unis pour abriter la Coupe du Monde des clubs de 2017 et 2018.
Une décision prise lors de son congrès extraordinaire qui a eu lieu à Zurich en Suisse. Les Émirats Arabes Unis avaient déjà organisé à deux reprises cette compétition en 2009 et 2010. Les deux dernières éditions se sont déroulées au Maroc avec le sacre du Bayern de Munich et le Real Madrid. Rappelons que la Coupe du Monde des clubs de football réunit les clubs champions de leur confédération.
Parlons à présent du championnat congolais de football de la première division.
Oui, Bagassi, qui était à sa 7e journée avec comme affiche tout-puissant Mazembe de Lubumbashi contre ASV Club de Kinshasa. Un match au sommet qui n'a connu ni vainqueur ni vaincu. Le résumé avec Thierry Kabundi de Top Congo FM à Kinshasa.
C'est à 100 à l'heure que débute ce choc au sommet du championnat national entre les deux plus gros budgets de la Ligue nationale de football. Dès la 3e minute, les Dauphins Noirs de Kinshasa obtiennent un coup franc à l'entrée du grand rectangle des Corbeaux de Mazembe. Très adroit dans cet exercice, Héritier Luvumbu Nzinga bat Robert Kidiaba et donne un avantage matinal à l'ASV Club. Mais à la 30e minute, une dispute oppose dans les gradins les supporters des deux camps. La police lance des gaz lacrymogènes qui les contraignent à envahir le gazon synthétique du stade TP Mazembe de Lubumbashi. L'arbitre arrête alors le match pendant près de 15 minutes avant d'en ordonner la reprise une fois le calme de retour. Le score, lui, n'évoluera pas jusqu'à la mi-temps. Revenu avec des meilleures intentions dans le jeu qu'en première période, Mazembe va mettre une forte pression sur V-Club, se procurer de nombreuses occasions de but jusqu'à égaliser au bout du temps additionnel par son attaquant zambien Renford Kalaba. Les Corbeaux évitent de ce fait de justesse leur première défaite à domicile en championnat depuis l'inauguration de leur stade de Kamalondo en 2012. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le tout-puissant Mazembe garde la première place devant Don Bosco, vainqueur du Sanga Balende 2-1. A noter le nul Viège 0-0 entre le Darin Club Motiba Pembe et MK. Au Bénin, le match au sommet de la 9e journée du championnat national de football de la première division a vu la victoire de la Jeunesse sportive d'Agonly 1-0 face à l'Estonnet de Boïcon. Les deux équipes partagent désormais la première place au classement général.
28e journée de la Liga espagnole, le FC Barcelone s'envole.
Grâce à sa victoire de 2-1 face au Real Madrid dans un classico épique et riche en occasions. Le but de Cristiano Ronaldo n'aura pas suffi face aux Catalans, réalistes qui comptent désormais 4 points d'avance sur leur adversaire du jour. Et puis Bagassi, restons avec vous pour avoir les résultats des matchs joués cette nuit en NBA, le championnat professionnel nord-américain de basketball.
Oui, il faut noter en basketball que Cleveland a battu Milwaukee 108-90 grâce notamment à un superbe LeBron James qui a marqué 28 points. L'ancien club de LeBron James Miami est tombé face à OKC 75-93. Peu de chance pour New Orleans face aux Los Angeles Clippers 100-107. Défaite des Knicks 89-106 contre Toronto. Washington est tombé face à Sacramento 109-86. Victoire de Détroit sur Boston 105-97. Et puis Philadelphie est tombé face aux Los Angeles Lakers 87-101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà, Bagassi Courant, votre compagnie pour cette édition du lundi 23 mars 2015. Place maintenant au dossier du jour. Commençons par la RDC. 100 jours après la mise sur pied du gouvernement dit de cohésion nationale, Matata 2, du nom du Premier ministre, la population du sud de Kivu dénonce ce qui est à ses yeux un bilan négatif sur les plans politiques, socio-économiques et sécuritaires. Pour les sud-kivutiens, Matata 1 est égal à Matata 2, un jeu de mots, car aucun changement n'est perceptible dans la région. Reportage de Jolie Kamuntu dans le sud de Kivu.
Pour la population du sud Kivu, beaucoup reste encore à faire en dépit de quelques efforts fournis par le gouvernement dit de cohésion nationale.
J'estime, en tant que citoyen congolais, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des améliorations à faire au niveau de la sécurité des citoyens parce que ça et là, on entend qu'il y a eu des tueries. Donc, le gouvernement doit faire des efforts pour sécuriser les citoyens congolais. Il y a également, sur le plan social, il faut que l'État prenne des décisions ou des mesures pour que les salaires s'améliorent.
On ne peut pas nier que certaines choses ont été faites, comme la construction de routes, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. La situation de la femme reste à améliorer, la situation sécuritaire également. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire.
Après 100 jours du gouvernement de la cohésion nationale, jusque-là, en tout cas, il n'y a vraiment aucun impact positif. Ils sont en train de se rechercher, mais je me dis, après 100 jours, mais la population ne sent même pas s'il y a eu des changements.
À l'opposition, tout est sombre. Le gouvernement s'est distingué par le mensonge et la désagrégation de la situation socio-économique et sécuritaire. Eric Mutembezi, président de la Ligue des Jeunes à l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise.
Le bilan reste toujours la démagogie, c'est-à-dire tromper le peuple qu'il y ait ceci ou cela, le secteur d'emploi où on nous trompe qu'on aurait embauché un nombre suffisant. On se demande dans quelle entreprise, par exemple au site Kivu, où nous vivons. Sur le plan social, on nous trompe toujours qu'on va construire ceci ou cela. À titre d'exemple, la route nationale qui mène à Uvira, on nous dit tel jour on commence. Mais jusque-là, ce ne sont que des promesses. Sur le plan sécuritaire, vous pouvez vous rendre compte que ici, au site Kivu, vous avez suivi dernièrement, dans une seule nuit, une dizaine de personnes tuées. Jusque-là, il n'y a pas d'enquête. La connexion Internet coupée, les SMS coupés. Et nous pensons que ce qui reste maintenant, c'est coiffer la tête, changer le magistrat suprême, lui remplacer par quelqu'un qui a la vision et un projet pour la population congolaise.
À la majorité présidentielle, par contre, Robert Mondo, chef de division de l'Habitat, affirme que
ces bilans a toujours été blanc. Ce bilan est à 100% de réussite.
Bukavu, Jolie Kamuntu, La Voix de l'Amérique.
Voilà, l'attentat de mercredi dernier à Tunis qui a fait 21 morts dont 20 touristes a été revendiqué par le groupe État islamique. Il s'agit du premier attentat qui vise des étrangers depuis la révolution de 2011. Selon plusieurs études, près de 3000 Tunisiens combattent en ce moment en Syrie, en Irak et en Libye, ce qui fait de la Tunisie le pays qui fournit le plus gros contingent de ressortissants auprès des organisations djihadistes. Claire Mourenjibour a joint Jawar Ben Mbarek, il est leader du réseau Doustourna, organisation de défense des droits humains en Tunisie. Jawar Ben Mbarek qui revient sur la montée du terrorisme en Tunisie.
Le terrorisme n'a pas pu s'enraciner sur le sol tunisien. Ces groupes ont commencé, et nous avons des souvenirs qu'en 2011-2012, ces groupes ont commencé à vouloir s'implanter dans la société tunisienne, sur le territoire tunisien. Mais finalement, la société tunisienne a rejeté d'une manière très rapide et très violente ce phénomène. Ces groupes n'ont pas pu s'installer définitivement sur le territoire tunisien. Ils étaient repoussés, que ce soit par l'action sécuritaire permanente, mais aussi par le rejet sociologique, ils étaient un peu repoussés hors de Tunisie. Finalement, la plupart des terroristes tunisiens ne sont pas en Tunisie.
Mais il y a quand même un intérêt de la jeunesse. Je pense notamment à ce jeune rappeur, Emino, qui a rejoint l'État islamique. Oui. Il y a quand même une tendance dans la jeunesse tunisienne aujourd'hui de se laisser tenter par ses idées.
Exactement. Ça aussi, on l'a constaté, même avant qu'ils ne partent vers le djihad en 2011 et en 2012 et même en 2013, quand on a constaté que des vagues par centaines, que des jeunes par centaines rallient les groupes salafistes les plus fondamentaux, les plus extrémistes. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer. Ce sont des jeunes issus de milieux très défavorisés, surtout des milieux déracinés, d'origine rurale, des familles installées récemment et en masse dans des sortes de bidonvilles autour des grandes villes, ce qu'on appelle les ceintures de pauvreté autour de la capitale, mais aussi autour des grandes villes tunisiennes. C'est des jeunes généralement qui ont des cycles de formation et d'éducation très courts, qui ont échoué dans leur parcours scolaire, mais ce n'est pas nécessairement la totalité des djihadistes. Il y a parmi ces jeunes-là aussi des jeunes de classe aisée et de la classe moyenne aussi, des jeunes étudiants, des jeunes, comme vous venez de le rappeler, des artistes, des rappeurs. Il ne faut pas oublier que ces groupes utilisent les nouvelles technologies, que ces groupes ont un discours sur la sexualité radicalement différent du discours sur la sexualité sociologiquement dominant. Ce sont des groupes qui offrent à des jeunes, même d'une manière utopique, une connaissance du monde et de leur raison d'être. C'est l'appartenance aussi à des groupes, avoir une identité pour des jeunes qui sont généralement délaissés dans les quartiers populaires, qui n'ont aucun avenir, aucun espoir, et ils se retrouvent dans des dynamiques jeunes, dans des dynamiques attractives pour la jeunesse.
Voilà, c'était Diawar Ben Mbarek, leader du réseau Doustourna, organisation de défense des droits humains en Tunisie. Le Niger, quant à lui, fait face à trois menaces de djihadistes. Au sud, il y a Boko Haram au Nigeria. Les islamistes sont toujours présents dans le nord du Mali, sans parler de la menace venant de la Libye au nord. Au plan intérieur, la police nigérienne a interpellé près de 300 partisans présumés des islamistes nigériens et le voile islamique est de rigueur chez la plupart des femmes de Niamey. Concernant l'idéologie de Boko Haram et de l'État islamique en Libye, Idriss Fall, notre envoyé spécial à Niamey, a recueilli l'avis d'un islamiste nigérien, Issoufou Bachar, ancien ambassadeur du Niger en Libye.
Boko Haram, au départ, c'était une question d'idéologie. Le Nigeria avait une condition laïque, avait 19 États qui se disent donc de charia. Et alors pour eux, non, on ne peut pas être laïque et en même temps de charia. Il faut que le Nigeria sache ce qu'il veut ou alors qu'on divise les deux pays. Il n'avait pas une seule allumette, il ne faisait du mal à personne. Jusqu'à ce qu'un gouverneur s'est mis maintenant contre eux. Ils ont été les premiers à être massacrés. Plus de 3000 personnes avaient été tuées. Après 2009, ils sont partis à l'étranger, ils sont formés. Et maintenant, ils mènent une lutte contre l'État du Nigeria.
L'État islamique contrôle des pans entiers de la Libye. Que pensez-vous de ce groupe?
Là aussi, il faut clarifier les choses. L'État islamique date de quelques mois. Alors que ceux qui sont à Benghazi et qui sont différents de ceux qui sont à Tripoli, eux existaient depuis une trentaine d'années. Ils ont fait allégeance à l'État islamique. Mais ce qui est sûr, la Libye, c'est vraiment trois régions regroupées. Le clanisme est très important en Libye. On se réfère à l'État islamique uniquement pour embêter l'Occident. Mais ils n'ont vraiment aucun rapport avec l'État islamique. Et je crois que c'est une alliance vraiment circonstancielle. En Libye, il ne peut y avoir de solution ni politique ni militaire. Il faut réconcilier les clans, réconcilier les régions et après réconcilier la Libye. Mais il y a une solution globale pour toute la Libye. Elle n'existe pas, elle n'existera pas.
Boko Haram défend un islam radical et pur. L'État islamique défend un islam radical et pur. Est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, cette idéologie soit applicable sur Terre?
Moi, je suis convaincu à 1000% qu'elle est applicable aujourd'hui. Dans le Coran, vous ne trouverez absolument rien qui ne puisse appliquer aujourd'hui. Ce que les gens détestent, c'est la coupure de main pour le voleur ou alors tuer celui qui a tué. Aux États-Unis, ça se fait tous les jours. Mettre à mort ce qui contient de l'adultère, c'est toujours des actions dissuasives. Et c'est pour empêcher que cela ait lieu. Il faut taper sur le mort pour que le vivant ait peur. Le christianisme, le judaïsme ont été révélés bien avant le Coran. Et aujourd'hui, en Israël, c'est le judaïsme qui est appliqué. En Europe, Sarkozy l'a dit, que l'Europe est chrétienne. Depuis 1991, depuis la guerre de Koweït, l'islam est harcelé. Interdiction de la burqa en France, alors que la burqa, quand même, ça s'est porté en France. Voté au Canada, aux États-Unis, en France, on ne peut pas faire appel à la prière. Mais pourtant, quand il est l'heure pour la prière à l'église, vous entendez le clocher, kling, kling, kling. Donc il y a une lutte contre l'islam.
Voilà, c'était Issoufou Bachara, ancien ambassadeur du Niger en Libye.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondjouti.
Cet anniversaire en Guinée dont on aurait pu bien se passer, le 23 mars 2014, la Guinée déclarait le premier cas confirmé du virus Ebola. Un an après, près de 3000 personnes ont été contaminées et plus de 2200 décédées. Même si le pays poursuit l'essai clinique vaccinal, la lutte contre la maladie semble difficile à cause des réticences dans la région côtière. Reportage à Conakry de Zakaria Camara.
Un an après la déclaration du virus Ebola en Guinée, on en est à plus de 3000 cas et plus de 2200 décès. Le dernier bilan publié samedi donne 69 malades dans les centres de traitement, dont 60 cas confirmés. Ebola continue de faire des victimes et 12 mois après, des Guinéens, chacun y va de son constat.
En Guinée, elle persiste parce que les mesures prises ne sont pas encore appliquées à 100%.
Pour moi, il manque de coordination. C'est la gestion qui fait problème. Il n'y a pas une bonne suivi aussi.
Si l'argent est utilisé en bon escient, il n'y aura pas de ce rebondissement quoi, sur la maladie d'Ebola. On allait finir très tôt.
La lutte contre Ebola est maintenant plus orientée vers la Basse-Côte, région où se trouve la capitale Conakry, car les réticences sont répétées dans cette partie du pays où l'on compte plusieurs dizaines de cas, alors que le Sud ne présente aucun malade dans les centres de traitement. Le ministre guinéen de la Communication explique pourquoi Ebola fait plus de victimes actuellement en Basse-Guinée. Alhoussène Makane Rakake.
Vous savez, la Basse-Côte, d'abord, c'est la capitale de la Guinée. Donc, c'est la somme de toute la Guinée. Il y a aussi la présence de la Sierra Leone à côté de Forécaria, qui partent à 150 km le long des frontières.
Face au nouveau foyer, les autorités sanitaires ont annoncé des mesures fermes, comme par exemple traduire des personnes devant un juge. La Coordination nationale de lutte contre Ebola appelle à la mobilisation. Son chargé de communication explique les nouvelles mesures. Foretas Silla.
Si une personne cache un malade dans le quartier sans nous informer, si jamais on découvre que cette personne décédée est Ebola, là la personne qui a gardé le corps sera poursuivie en justice.
L'an 1 d'Ebola en Guinée, c'est aussi le décès de 108 agents de santé et la guérison pour plus de 1000 cas confirmés au départ. Conakry, Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
En Côte d'Ivoire, les professionnels de santé déployés dans les pays affectés par la fièvre hémorragique à virus Ebola ont regagné leurs familles respectives ce week-end. Le retour de ces volontaires a fait l'objet d'une cérémonie où ceux-ci se sont dit fiers d'avoir accompli cette délicate mission. Germaine Dri est notre correspondant à Abidjan.
Les 115 médecins et infirmiers déployés par l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone pour secourir les personnes touchées par la maladie à virus Ebola ont achevé leur tâche. La maladie ayant pris du recul, les professionnels de la santé volontaires ont été mis en quarantaine à Abidjan 21 jours durant. Il ressort de cette observation qu'ils ne portent aucun germe de la maladie. Ils sont plutôt déterminés à rééditer l'exploit malgré quelques difficultés rencontrées. Apiata.
On est engagé. Tant que c'est pas fini, on baisse pas le bras. J'étais à Cancan. Le seul problème pour accomplir notre mission, c'est la résistance de la population contre les mesures prises par le ministère de la Santé.
Auguste Sego, le chef de l'équipe qui était basé à Sierra Leone. Le seul défi que nous avions là-bas, c'était les ressortissants même du pays. Il y avait cette relation interpersonnelle qui n'était pas très bien. Eux, ils croyaient que c'était pour venir prendre les mauvaises informations et passer l'information au monde entier. Donc, ils n'appréciaient pas vraiment nos présents, mais je crois que ça a été.
Docteur Mou Haruna a fait que leur séjour était chargé.
Je suis un Nigérien. Nous avons participé à la prise en charge des malades dans les centres de transit communautaire de Kindia. Plus de cela, on a participé aussi au contrôle de l'infection, c'est-à-dire la supervision, la suivi des contacts au niveau de la région où on a été affecté. On sait que c'est une mission quand même à risque, mais la mort, on a mis ça à côté quoi, pour bien faire le travail.
Quant à Dr Kakoué Mépol, il compte avoir tiré profit de cette mission.
Je viens du Mali. Nous avons
reçu une très bonne formation au Ghana. Nous avons fait de notre mieux à travers ce qu'on nous a appris, qui était d'aider et d'assister nos frères de la Guinée.
Signalons que les médecins, infirmiers et hygiénistes volontaires déployés de décembre 2014 à février 2015 sont issus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, du Niger, du Nigeria et du Sénégal. Germain Dri, Abidjan, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout donc pour cette première édition matinale. Au micro, c'était Bagassi Koura et Anne Alberson. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur...